5, 4, 3, 2, unité.
L'auberge espagnole sur Divergence FM, vie associative, culture, science, environnement, tout y passe et tous y passent.
Un artiste qu'on va dire au sens du terme large.
C'est la grosse nouveauté de l'économie sociale, a du sens.
On est loin de l'abrogation totale des gaz de schiste en France.
Moi, trash, ça va être pégueux, je pense.
L'idée, c'est de sortir de l'ordinateur.
Tout le truc que je kiffe.
Jardin sec, pourquoi le faire? Quels sont les coûts?
On reconnaît la langue du cinquième élément.
C'est vraiment un mur de guitare, comme un souffle atomique.
Un public habitué.
C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui les entrepreneurs d'identité.
Bah, c'est super, on voit que les motards se mobilisent.
C'est gratuit et on ne vend rien, c'est neutre, donc profitez-en.
L'Auberge espagnole, une émission de la rédaction de Divergence FM, présentée par Gilles Couget.
Tout l'an 2012, ça va se travailler, puis début 2013, on lance ça en force.
C'était le jeudi 29 novembre que s'est tenue l'élection du nouveau bâtonnier au barreau de Montpellier. Luc Kirkiacharian est l'heureux élu et notre invité Mathieu Vézol, organisateur des 4e rencontres Quali Méditerranée. C'était les 15 et 16 novembre à Montpellier. Supergro INRA sera avec nous pour parler du thème de la nutrition des plantes ainsi que de lancer un appel. L'agence du Dent Nature redistribue 600 000 jouets. Interview de Stéphanie Goujon, déléguée générale. Côté culture, on parlera du magazine Mama Sound et ses Sculpa et Stéphanie qui viendront nous en parler avant que nous ne recevions Mastoc avec tout plein des gens et du live. Ils seront en concert performance ce mercredi 19 décembre 2012 à partir de 17h30, salle Jean Moulin à la maison des étudiants. La voix chatoyante de Sally Ford and the Outside qui nous chantait Against the Law, contre la loi, quelqu'un qui est plutôt pas contre mais tout contre la loi. C'est notre premier invité dans cette auberge espagnole. On reçoit le nouveau bâtonnier du barreau de Montpellier, Luc Kirkiacharian. Bonjour.
Bonjour, avec une voix moins chatoyante.
Ben en tout cas, une voix moins chatoyante peut-être, mais à chacun son métier, pourrait-on dire. C'est en 79 que vous prêtiez serment à la cour d'appel de Montpellier, donc même si vous êtes grenoblois d'origine, vous êtes montpelliérain d'adoption depuis 35 années, je crois.
Oui, les montagnes me manquent quand même. Même après 35 ans.
Les montagnes et puis une certaine ponctualité des gens des montagnes.
C'est pas faux, mais on va pas polémiquer sur le sujet. Les méridionaux ont plein de qualités.
Alors vous avez été membre du conseil de discipline des barreaux du ressort de juillet 2005 à décembre 2008, membre suppléant de 2009 à 2010. Vous avez fait également partie des membres fondateurs de la section montpelliéraine du syndicat des avocats de France, avec 34 années d'exercice dans le domaine du droit salarial. Un choix non dogmatique mais de crédibilité. Vous succédez à Michel Tisser au poste de bâtonnier pour une durée de 2 ans. Quel est le rôle d'un bâtonnier? On va peut-être préciser pour ceux qui l'ignorent que sur le site du barreau de Madagascar, on peut trouver un petit descriptif de l'origine du mot bâtonnier en précisant qu'au Moyen-Âge, le barreau avait une double fonction, celle de corporation au plan professionnel, mais aussi celle de confrérie au plan religieux. À cette époque, les avocats se réunissaient à l'occasion de la confrérie de Saint-Nicolas. Leur chef portait alors la bannière de cette confrérie en la tenant par le bâton. D'autres diront aussi que la statue de Saint-Nicolas, située près de la chapelle de Saint-Nicolas au palais de justice de Paris, était en raison de sa forme très allongée assimilée à un bâton. Voilà pour l'origine l'origine du mot, le rôle du bâtonnier qui est le premier parmi ses pairs, c'est à la fois un rôle de conciliateur mais aussi d'arbitre en quelque sorte.
À quoi ça sert le bâtonnier? Il faut rapprocher. Alors, vous avez fait une lecture de l'histoire
très rapide,
précise, je trouve, qui a le mérite de rappeler que c'est une organisation, l'ordre des avocats, qui est très ancienne, mm-hmm. qui a été suspendue quelques années pendant la Révolution française et rétablie par Napoléon. On a d'ailleurs cette année fêté le 200e anniversaire du rétablissement des ordres. Et le bâtonnier, c'est le chef de l'ordre, qui est le responsable social finalement de ses ouailles, de ses confrères, ici près de 1000 avocats, ce qui fait du barreau de Montpellier le 8e barreau national, responsable de la paix entre les uns et les autres, des rapports entre les avocats et les justiciables, des rapports entre les avocats et les magistrats, et puis enfin des rapports, je dirais, quotidiens, de plus en plus, des avocats avec la cité.
Tout à fait. Alors, parmi toutes ces fonctions représentatives, administratives, consultatives, disciplinaires, comment on concilie tout ça ?
Ah ben c'est un métier à temps plein qui s'ajoute au métier d'avocat que je pratique depuis longtemps. Alors finalement, parmi les candidats au barreau, il y a, j'ai envie de dire, deux grandes catégories de candidats. Celles et ceux qui finalement espèrent s'échapper du métier pour faire un autre métier dans la représentation nécessaire des avocats. Et celles et ceux, je fais partie plutôt du deuxième groupe, même franchement du deuxième groupe, qui s'octroient une parenthèse dans leur vie professionnelle avec l'envie d'y revenir très vite, sachant que je continuerai à exercer mon activité de travailliste, c'est-à-dire de pratiquant du droit du travail devant les conseils des prud'hommes, malgré la lourdeur de la tâche. Voilà.
Alors, vous avez la volonté de vous inscrire dans les traces de votre prédécesseur, mais aussi, j'imagine, d'apporter une touche personnelle. Laquelle serait-elle ?
Ce serait prétentieux de dire que le mandat de bâtonnier, qui est un mandat qui dure 2 ans, donne lieu à des révolutions et à des transformations radicales du métier. Le métier, il est appauvri parce que c'est une des conséquences de la crise économique. Les entreprises sont en grande difficulté, les particuliers également, et par conséquent, les avocats qui gèrent les litiges professionnels et qui sont et qui donnent des conseils sont très directement affectés par la crise économique, et le barreau de Montpellier en particulier, puisque Montpellier n'est pas une ville d'industrie, une ville de service, une ville d'administration, et une ville dont on parle beaucoup parce que les communicants sont efficaces, mais l'activité industrielle manque cruellement, et l'activité des avocats est donc très impactée par la crise. Donc mon rôle, c'est d'accompagner ses confrères avec leurs difficultés pour les aider, par exemple, à découvrir des domaines nouveaux d'investigation, des domaines nouveaux d'activité, comme par exemple celui de l'avocat mandataire en transactions immobilières, qu'on connaît peu, mais qui permet à un avocat de faire des transactions immobilières. La loi le permet, bien sûr, c'est finalement un lieu nouveau d'activité, un secteur nouveau d'activité, tout en sécurisant les parties avec des conventions et des promesses de vente tout à fait sécurisées.
C'est vrai que l'immobilier, c'est aussi un lieu de banditisme. Le terme est sans doute un petit peu fort, mais c'est vrai que on voit bien quand l'État dit qu'il faut arrêter d'augmenter les loyers, etc., c'est que tout le monde fait un peu ce qu'il veut entre les agences immobilières. Les promoteurs et puis les collectivités qui essayent de réguler un peu
tout
ça.
C'est une sorte de deuxième économie, d'une économie de substitution, l'immobilier. Quand l'activité va mal, très souvent, les investissements sont des investissements immobiliers, les investissements qui veulent être prudents. Et quand on veut être prudent, il vaut mieux être conseiller. L'avocat, il est mandataire, c'est-à-dire qu'il fait le travail d'un agent, mais en plus, il sécurise, c'est-à-dire qu'il fait des conventions sécurisées. Et je pense qu'il le fait d'autant plus naturellement que les clients viennent le voir. On a tous dans nos clientèles des gens qui vendent une maison ou qui veulent investir.
Alors dans ce rôle, il y a aussi le fait de faire la promotion du savoir-faire montpelliérain. Alors, 8e barreau de France, qu'a-t-il de particulier en termes de savoir-faire dans le paysage, s'il existe un paysage du barreau français ?
Oui, il y a un paysage du barreau français et on a recensé à peu près 22 métiers différents dans la profession d'avocat. Le public ne connaît de l'avocat que ce que l'on voit de lui à travers les fictions télévisées américaines ou françaises, c'est-à-dire le pénaliste qui intervient en général sur de gros dossiers, dossier et qui a un ego surdimensionné. Enfin voilà, l'avocat est à ce point caricaturé qu'on ignore complètement que 90%, 95% des confrères que j'ai l'honneur de représenter font tout autre chose que ce qu'on les voit faire à la télévision. Et la série Avocats et associés avait, très très célèbre série télévisée, française, de qualité d'ailleurs, avait un petit peu montré la diversité des activités professionnelles. Il y avait une petite ouverture dans la médiatisation de l'image professionnelle des avocats. Mais en réalité, la diversité est encore beaucoup plus importante. Donc les savoir-faire, c'est en matière fiscale, par exemple, il y a des compétences montpelliéraines qui valent très largement les meilleures pointures parisiennes. Mais mon travail, c'est aussi essayer d'organiser cette promotion des compétences montpelliéraines. Je prends l'exemple du droit fiscal, mais dans d'autres domaines d'activité, le droit de la construction, par exemple, il y a aussi des compétences très très fines.
Et puis il s'agit aussi d'accompagner vos confrères ou même de les défendre quand ils sont injustement attaqués, une attente des avocats du barreau. Alors dans la période présente où l'APA des dommages et intérêts à l'américaine tend à rendre les gens de plus en plus procéduriers, les avocats font-ils l'objet de plus en plus d'attaques ?
Non, mais il faut comprendre aussi le besoin de sécurité des justiciables dès l'instant où ils font appel au service d'un professionnel qui est affilié à une profession réglementée et qui doit justifier d'ailleurs d'une assurance responsabilité civile. Mais en même temps, l'aléa judiciaire existe et l'avocat n'est tenu qu'à une obligation de moyens, tout mettre en œuvre pour parvenir à un résultat. L'obligation de résultat n'existe pas. Je dirais de la même façon qu'on ne peut pas exiger d'un médecin qu'il guérisse son patient. C'est une impossibilité juridique. Alors accompagner les confrères, c'est effectivement dans une situation économique dégradée, faire en sorte d'une part que le service donné par les avocats soit le meilleur possible en termes de compétences, d'expertise. Nous avons une obligation de formation continue, je veillerai à ce qu'elle soit particulièrement respectée. Mais en même temps, c'est rappeler aux justiciables qu'on ne n'invente pas la lune et qu'on n'évite pas les risques, et qu'on ne peut que limiter les risques en agissant devant une juridiction.
Pour terminer, comment s'exerce une totale indépendance vis-à-vis des collectivités, des pouvoirs politiques et des institutions administratives, économiques et sociales, et est-ce que c'est un petit peu à vous d'être attentif à ça ?
Je ne veux pas donner de leçons. L'indépendance, c'est un exercice, c'est une envie. Hein, dans ma profession de foi, j'ai dit que je souhaitais être indépendant, que je me croyais indépendant. Mais c'est par exemple exclure concomitamment des engagements politiques, des engagements syndicaux. Il faut être libre vis-à-vis précisément des institutionnels avec lesquels nous rechercherons des partenariats. Mais l'indépendance, c'est aussi, j'ai envie de dire, pouvoir vivre de son métier, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de vivre, si vous voulez, de cette activité secondaire qui est secondaire parce que ça ne dure qu'un temps et essentielle pendant le temps du mandat, qu'est l'activité de bâtonnier dont je disais tout à l'heure que c'est un deuxième métier. Mon indépendance est une indépendance, je crois, que j'ai pu conquérir grâce à mon activité pendant 35 ans. Et par conséquent, c'est pas seulement un postulat et un vœu pieux.
Pour terminer tout à fait, la suppression des avoués par la précédente législature, parce que du coup ça fait arriver plus d'avocats, parce que nombre d'entre eux sont obligés maintenant de devenir avocats.
Pour des raisons techniques que je ne peux pas développer ici, j'ai regretté la disparition de ces avoués. On n'était pas très nombreux parmi les avocats à le regretter. Oui. Hein. Maintenant, l'afflux d'avocats à Montpellier, c'est un sujet à lui tout seul. La répartition, là aussi, je ne pense pas que votre public soit intéressé à l'examen sérieux de cette question sérieuse. Disons que la philosophie de la profession d'avocat, c'est que c'est une profession ouverte et que nous avons vocation à accueillir les jeunes qui veulent devenir avocats, sans numerus clausus. La réalité économique montpelliéraine, rend cet accès à la profession compliqué. Et c'est vrai que la répartition des avocats sur le territoire national est problématique. Par exemple, Orléans, qui est à une heure, je terminerai sur ce point, Orléans est à une heure de Paris. Beaucoup de sièges sociaux des grandes entreprises parisiennes se sont délocalisés pour s'y installer parce que le terrain n'est pas cher ou gratuit. Donc il y a beaucoup de potentiel. Il y a une agglo qui fait 300 000 habitants. Je crois que c'est notre agglomération.
Hein. À peu près, oui.
Nous sommes à Montpellier, donc 300 000 habitants, agglo, évidemment, périmètre de l'agglo. Et bientôt 1 000 avocats à Orléans pour le même nombre d'habitants. Ils ne sont pas tout à fait 300 avocats.
D'accord. Luc Kirkiacharian, merci. Je rappelle que vous prendrez vos fonctions de nouveau bâtonnier du barreau de Montpellier. Ce sera le 1er janvier 2013.
Merci à vous.
On vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année.
Merci à vous et bonne fête aux auditeurs.
Merci, au revoir. Et oui, James Brown qui nous chante « Giving up food for funk ». Il abandonne la nourriture pour le funk. Chacun son truc, mais quand même, il faut quand même bien manger. Et pour manger, il faut produire de la vigne, du vin, des fruits et légumes, des céréales. Dans ce cadre-là, le pôle de compétitivité Cali Méditerranée qui fédère un réseau d'entreprises et d'organismes de recherche autour d'ambitions communes et de projets collaboratifs innovants, avec l'ambition d'apporter des réponses aux enjeux de l'alimentation de demain. Organisé les 15 et 16 novembre à Montpellier-Supadro INRA, les quatrièmes rencontres Quali de Méditerranée sur le thème la nutrition des plantes. Mathieu Vézol est l'organisateur de ces rencontres. Bonjour Mathieu Vézol.
Bonjour Gilles.
Alors, un bilan de cet événement dont on précise qu'il a fait se rencontrer près de 200 participants, dont 115 entreprises, 60 chercheurs ou centres techniques, 25 structures accompagnatrices dans le domaine de la nutrition des plantes. Donc un événement assez important. Quatrième du nom, donc les premières, c'était en 2008 ?
En 2009, la première édition en 2009 sur les intrants en agriculture, la problématique de l'impact des intrants.
Les intrants, on rappelle...
Alors, intrants, ça peut être produits phytosanitaires, mm-hmm. ça peut être de produits nutrition. L'eau aussi est considérée comme un intrant. Donc, toutes ces substances qu'on apporte aux cultures.
Donc, intrants, il y a des bons et des mauvais. C'est pas un thème...
des bons et des moins bons. Et justement, on essaie de travailler sur ces enjeux-là, vraiment pour arriver à des meilleures choses.
Surtout qu'en ce moment, ces fameux produits phytosanitaires ont plutôt une assez mauvaise presse, surtout auprès de certains agriculteurs qui en pâtissent aujourd'hui dans leur chair, on peut le dire comme ça, en ces temps aussi de débats autour de la question OGM, de la question de la raréfaction de la ressource en eau, etc. Donc j'imagine que plus que jamais dans ce type de salon, les gens sont peut-être dans l'urgence, c'est peut-être un peu fort de dire ça.
Bah, dans l'urgence, oui, parce qu'il y a aussi, suite à l'attente, il y a les agriculteurs, les utilisateurs, on va dire, de ces produits. Il y a aussi les consommateurs qui sont de plus en plus sensibilisés à ces problématiques.
Et qui pèsent aussi dans l'opinion.
Exactement, et qui pèsent dans l'opinion. Et du coup, les lois, les directives, que ce soit au niveau européen, au niveau national, il y a des pressions réglementaires, on va dire positives ou négatives, mais en tout cas qui poussent à trouver de nouvelles solutions. Et donc nous, on se pose comme acteurs dans ce rôle-là, pour trouver des solutions pour une agriculture compétitive et durable.
Alors, par rapport à ces rencontres, j'imagine que des actes vont être publiés ou sont déjà en cours de publication ?
Tout à fait, on est en plein dedans, donc ça va être publié en fin de semaine. Mais il faut savoir que justement, c'est un événement qui a lieu sur un jour et demi. L'objectif de ces rencontres Cali Méditerranée, vraiment, c'est de se faire rencontrer les acteurs. Les acteurs, que ce soit les entreprises innovantes, fournisseurs de produits ou de services aux filières, mais aussi les laboratoires de recherche, pour monter des projets ensemble. Et donc, ces projets devront à terme produire des services et des produits aux filières innovants. Alors soit ça peut être des nouveaux produits phyto ou non phyto. Alors maintenant on appelle ça des produits complémentaires pour essayer de diminuer les doses, d'en mettre on va dire une bonne dose au bon endroit au bon moment pour essayer de partir sur une agriculture plus raisonnée et moins conventionnelle.
Oui, parce que évidemment, c'est des thèmes qui reviennent régulièrement, notamment des thèmes plus ou moins connus. Par exemple, le maintien de la fertilité des sols. Là, la fertilité des sols pose un problème dans le cadre de l'agriculture intensive, et ce depuis suffisamment longtemps pour que finalement tout le monde en soit un petit peu conscient. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Les micro-organismes, les processus rhizosphériques, la fertilisation, les nouveaux produits, la caractérisation des sols, le pilotage de la nutrition, la gestion des éléments nutritionnels. Tout ça a fait l'objet de mise en contact, de rendez-vous d'affaires, 121 organisés sur cette édition, finalement pour que tout le monde puisse avancer dans le bon sens.
Exactement, donc c'est vrai que ces rencontres Cali Méditerranée ont différents formats. Comme je disais, il y a des visites de laboratoire, il y a des conférences qui sont en plénière avec des laboratoires de recherche, des chercheurs qui sont assez reconnus dans leur domaine et qui donnent de l'information pour avancer sur ces problématiques. Et il y a aussi, comme vous l'avez dit, des rendez-vous d'affaires et technologies qui sont organisés par la CCI Languedoc-Roussillon de Montpellier, et qui permettent de faire matcher des profils d'entreprise avec des profils de laboratoire, soit pour créer du partenariat technologique, soit vraiment pour faire du business aussi, parce qu'il faut savoir que les pôles de compétitivité, leur objectif, c'est de créer de l'économie et de la valeur sur les territoires.
Voilà, et puis de les mettre en contact, parce que c'est vrai que les gens dans les labos... Ils ont, surtout par les temps qui courent, peut-être tendance à se mettre en compétition parfois, plus qu'à échanger avant publication. Donc il y a tout un contexte un petit peu économique qui fait que la coopération n'est pas forcément le tout premier réflexe qui vient quand justement on a affaire à des entreprises qui ont un produit à défendre, à mettre sur le marché, etc.
Alors oui et non, c'est-à-dire que c'est vrai que c'était peut-être pas, on va dire dans le passé, c'était peut-être pas ce qu'il y avait de fait régulièrement. Mais de plus en plus, et de par les problèmes économiques, les laboratoires aussi doivent de plus en plus s'ouvrir, lever la tête du guidon et s'ouvrir et collaborer avec des entreprises. Mmh. Donc c'est pour ça qu'on avait organisé des visites de laboratoires où des entreprises sont venues voir les équipements et les travaux de recherche faits par nos chercheurs ici à Montpellier. Et pour que derrière, il y ait des collaborations. Et justement, du coup, c'est du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que les entreprises aident à financer de la recherche au niveau des laboratoires et les entreprises externalisent de leur recherche et développement au niveau des laboratoires publics. Et du coup, ça donne des collaborations et des projets collaboratifs intéressants dans cette thématique.
Alors j'imagine que les actes donc, qui vont être publiés, ça sera sur le site caliméditerranée.fr.
Exactement, alors ça va être sur le site de l'événement. On a un site spécifique pour l'événement qui est www.rencontre-du6caliméditerranée.fr où toutes les présentations seront disponibles.
D'accord.
Donc là, toutes les présentations faites soit en atelier, parce qu'il y avait des ateliers pour justement échanger de manière plus intimiste et plus conviviale à de 10 à 25 personnes pour avancer, on va dire,
plus concrète aussi,
plus concrètement, ouais. Exactement, plus appliqué sur des problématiques. Il y aura justement, toutes les présentations seront disponibles sur le site.
Et puis un deuxième sujet, c'est l'appel à manifestation d'intérêt sur la santé des plantes qui est lancé, qui se clôturera le 1er février 2013. Donc lancé par Cali Méditerranée et le pôle de compétitivité Vitagora, une consultation de projets de recherche et développement et d'innovation sur la thématique innover pour la protection et la nutrition des plantes et la gestion de l'eau. Donc là, c'est ouvert donc j'imagine à des laboratoires, peut-être aussi à des entreprises.
Exactement. Donc c'est dans une logique où finalement les rencontres Cali Méditerranée, c'est pas faire un événement pour un événement. C'est-à-dire que derrière il faut qu'il y ait une suite, il faut qu'il y ait des retombées, on fait pas un événement pour le plaisir. Donc en fait c'est un outil qu'on lance finalement lors des rencontres Cali Méditerranée pour faire appel d'air sur des projets collaboratifs. Donc en gros on a lancé un appel à manifestation d'intérêt qui est en fait un appel à idées. Donc ça peut être une idée, une entreprise qui a une idée qui est toute seule et qui souhaite la développer avec des nouveaux partenariats, ou alors quelque chose de déjà plus mûr avec déjà un consortium d'entreprises et de laboratoires de recherche qui recherchent des financements. Donc il y a plusieurs types de maturité au niveau de ces projets. Et donc nous, on le lance avec le pôle Vitagora, qui est un pôle qui est situé à Dijon, en Bourgogne, sur lequel on collabore sur la partie viticulture, bien sûr. Et donc, en fait, on se propose d'accompagner les idées, soit pour trouver des partenaires, trouver des compétences de laboratoires de recherche, d'entreprises, de trouver des financements pour finalement accompagner ces projets au mieux et les faire financer. Et derrière, il y aura donc normalement les retombées économiques, soit des produits ou des services en agriculture et notamment sur la partie santé du végétal.
Voilà, cet appel donc se clôturera le 1er février. C'est par mail qu'on peut transmettre. On retrouve toutes les informations évidemment sur caliméditerranée.fr. Des projets qui devront proposer des innovations dans le champ de la nutrition, de la protection ou de l'état hydrique des plantes au travers de nouveaux produits, services et dans les domaines d'amélioration de la et sélection variétale, agriculture de précision, produits de nutrition, solutions de protection des plantes, solutions innovantes à l'irrigation. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous vous sentez concerné. Allez sur caliméditerranée.fr pour répondre à cet appel. Mathieu Vézol, merci beaucoup d'être
merci
venu
à
dans
vous.
Les studios de Divergence. Et puis, voilà, souhaitons que l'agroalimentaire français ait le vent en poupe dans la modernité et dans le bon sens.
Merci.
Au revoir.
Au revoir. Thank you.
Ah, Django, Django et son Christmas Swing, un swing de Noël. Et on va parler de Noël à présent avec l'interview de la déléguée générale de l'Agence du don en nature, Stéphanie Goujon. Nous sommes au téléphone avec Stéphanie Goujon, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes la déléguée générale de l'Agence du don en nature, une agence qui récupère auprès d'entreprises des produits neufs invendus, souvent voués à la destruction afin de les mettre à disposition d'associations caritatives. Et en ce jour de veille de fête de Noël, j'imagine que l'activité bat son plein au niveau de cette structure.
Tout à fait, Gilles. Nous récupérons bien sûr tout au long de l'année des produits de nécessité courante. Hein. Ça va être des produits d'hygiène, d'entretien, des vêtements, des fournitures scolaires. Mais là, pour Noël, on a fait un effort tout particulier pour collecter auprès d'industriels des jouets pour pouvoir embellir un petit peu le Noël des enfants en France. Je ne sais pas si vous connaissez les chiffres, puisqu'en ce moment, on parle un petit peu plus de la pauvreté grandissante dans notre pays. Mmh. Mais pour les enfants, c'est tout à fait dramatique et intolérable, puisqu'il y aurait entre 1 et 2 millions d'enfants en dessous du seuil de pauvreté en France. Et voilà, nous, on trouve qu'il faut se battre contre ça et il faut, à notre mesure, tâcher de lutter contre cette précarité matérielle.
Voilà, d'autant que c'est aussi dans la notion de limiter le gaspillage pour plus de partage. Le partage qui est une valeur qui monte en ce moment, on a l'impression. Surtout avec des chiffres aussi assommants que 400 millions d'euros de produits neufs non alimentaires détruits chaque année en France, par exemple.
Oui, c'était notre constat de départ. C'est vrai qu'il y a des produits neufs qui vont être des obsolètes marketing, qui vont être des fins de série, des queues de promotion, des changements de packaging. Bah, les industriels, ils sont contraints de s'en débarrasser et il n'y a pas forcément le canaux d'écoulement qui les sécurise pour donner. Face à ça, nous, on a créé à l'Agence du don en nature une alternative, si vous voulez, solidaire et fiable pour l'écoulement des stocks, sachant qu'aucun industriel n'aime détruire, bien évidemment. Ils ont tous envie de donner leurs produits, mais ils veulent s'assurer que les produits confiés ne sont pas revendus sur des marchés parallèles. Mmh. Donc nous, c'est ça ce qu'on propose aux entreprises, c'est vraiment une filière sécurisée pour l'écoulement des surplus, des surstocks, et on s'engage à ce que les produits soient vraiment utilisés à des fins caritatives auprès d'un réseau de 330 associations sur toute la France.
Il y a un maillage sur tout le territoire qui va permettre pour ce Noël 2012, dans le cadre de l'opération Solidarité Noël 2012, de distribuer plus de 600 000 jouets qui ont été collectés à ce jour.
On a collecté effectivement tous ces jouets pour les enfants, donc on les redistribue sur toute la France, donc y compris sur la région de Montpellier où on a des associations sur place. Voilà, c'est vrai que les jouets, c'est assez emblématique à cette période des arbres de Noël, mais il y a aussi, à cette occasion, on a aussi pensé aux parents, hein, et il y a aussi un petit peu de maquillage, de cosmétiques, des vêtements neufs pour toute la famille.
Alors sur Montpellier, c'est l'association Chrysalide qui effectue ce relais. Quel type de lien vous arrivez à tisser au niveau national avec toutes ces associations pour pouvoir être garante de leur bon fonctionnement, en quelque sorte?
Alors, c'est une très bonne question. Pour qu'une association de lutte contre l'exclusion rejoigne le réseau de l'Agence du don en nature, elle doit effectivement déposer tout un dossier, signer une convention de partenariat dans laquelle elle s'engage à ne pas revendre les produits sur les marchés, etc., mais vraiment à les utiliser conformément à son objet social. Et y a toute une enquête terrain qui est menée, une rencontre avec les chargés de partenariat de l'Agence du don en nature. Et ensuite, le dossier, il est constitué et il est validé dans un comité d'engagement. Ensuite, suite à ça, l'association, elle va recevoir des codes d'accès à notre site internet, parce qu'en fait, on a un site de e-don, c'est un site de e-commerce, où tous les stocks disponibles sont sur un catalogue en ligne, et là, elle pourra commander les produits. Maintenant, je vais vous dire, le site internet, c'est essentiel à notre, au bon fonctionnement. Ça nous permet de toucher bah, justement des structures, des associations sur toute la France. Mais ça n'exclut pas qu'il y a aussi des visites terrain qui sont faites le plus souvent possible pour qu'il y ait un vrai contact de proximité qui puisse se créer. Ce qu'on essaie de faire aussi, c'est d'avoir des correspondants bénévoles locaux. Malheureusement, mais peut-être qu'avec cette votre émission, votre reportage, on n'en a pas sur Montpellier, mais peut-être qu'on va susciter des vocations. En tout cas, on essaie d'avoir aussi quelqu'un voilà, sur place qui puisse mieux appréhender les besoins du tissu associatif, relayer d'éventuels problèmes s'il y en a, faciliter en tout cas les flux des échanges. C'est très important pour nous, en complément de tout ce qu'on peut faire en ligne, si vous voulez.
Ces 330 associations qui travaillent avec l'Agence du don en nature, ben, de l'autre côté, il y a plus de 50 entreprises donatrices, et pas les plus anodines, L'Oréal, pour ne citer qu'elles. J'imagine que votre parcours par HEC facilite les contacts avec ce type de grandes entreprises, dont la philanthropie n'est pas la plus grande des qualités.
Alors, je crois que aujourd'hui les entreprises, hein, le secteur industriel est quand même conscient de ses responsabilités et qu'il y a un engagement de plus en plus marqué des dirigeants. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire abstraction, encore une fois, de cette précarité grandissante en France avec 8,6 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté. Ça vient de la responsabilité de chacun. Vous aviez raison, Gilles, de souligner. On a la chance de pouvoir s'appuyer sur des mécènes d'envergure comme L'Oréal, comme Procter, comme Seb. Sur les jouets dont on parlait, il y a Playmobil aussi qui nous fait le plaisir de nous accompagner depuis déjà quelques années. Et puis il y a aussi des entreprises, je regardais dans pas très très loin de chez vous en Camargue, il y a une belle entreprise comme Éminence qui nous fait des dons réguliers. Donc on en a 50 aujourd'hui, des donateurs, mais je vais vous dire, on s'est mis en posture de tripler notre nombre de donateurs parce qu'on a un projet qui s'appelle le projet ADN comme agence de nature 2015, qui est d'avoir redonné 100 millions d'euros de produits en estimation valeur marchande d'ici à fin 2015. 100 millions d'euros de produits neufs, hein, non alimentaires, pour les plus démunis. Pour les redonner, il va falloir qu'on les collecte déjà. Pour ça, on a besoin de faire des émules. Mon passé et le vécu aussi des gens qui sont à l'agence de la nature fait que nous avons pu établir des contacts avec les entreprises. Mais aujourd'hui, on n'est pas assez connu. Voilà, on a un savoir-faire, on a vraiment une filière sécurisée. Tous nos donateurs sont fidèles, ça c'est une grande fierté. Mais on cherche aujourd'hui à gagner en visibilité, pas du tout dans une logique castafiorique, ça veut dire, mais pour que les entreprises qui ont des surstocks, qui ont des surplus, qui restent dans leurs entrepôts, qui leur coûtent de l'argent, puissent bénéficier de notre service et avoir comme ça un impact dans la lutte contre la précarité et un engagement solidaire.
Alors 100 millions d'euros de collecte de produits neufs non alimentaires plutôt que de les détruire, ça représente un quart des 400 millions qu'on évoquait au début de cet entretien. J'imagine que atteindre les 400 millions de récupération, c'est pas possible.
Ah, je veux pas aller dans une boule de cristal, mais déjà, on se dit là, on en est à 20 millions d'euros, là, au moment où je vous parle, à 2012, fin 2012. Donc déjà, passer à 100 millions d'euros, on se projette à 3 ans. Après, on verra. Mais je suis une optimiste incorrigible je pense que encore une fois le nous on est une passerelle entre le monde lucratif là, le secteur marchand et le monde non lucratif mais moi je suis convaincue que ces deux mondes vont se parler de plus en plus et que les entreprises elles ont envie d'agir contre la précarité celles qui n'ont pas encore envie de le faire, de toute façon elles seront conduites à le faire. Il y a des bonnes pratiques qui sont en train de s'installer.
Stéphanie Goujon, je vous remercie pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes déléguée générale de l'Agence du don en nature, que l'on retrouve bien évidemment sur internet, sur www.adnfrance.org, en vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année.
Merci beaucoup Gilles, à bientôt.
Au revoir. À présent, dans cette auberge espagnole, on va parler de Mama Sound. Vous avez sans doute remarqué ce petit nouveau qui vient compléter l'offre Leitmotiv, Taffer et j'en passe sur Montpellier. Et pour en parler, on reçoit Skulpa et Steph. Bonjour à tous les deux.
Yo.
Salut.
Alors, on va vous demander de nous raconter un petit peu comment est né ce projet. D'où venez-vous? Qui êtes-vous? Et tout ça, quoi.
Alors, d'où on vient, qui on est, ce projet, comment il est né? Il est né assez simplement, hein, finalement, à force de traîner dans les rades, voilà, on passait de bar en bar et on voyait plein de concerts qui s'organisaient, mais pourtant on avait du mal à être au courant. Alors tu parlais des magazines existants à Montpellier, Gilles, en fait il y a des magazines existants soit, mais nous on est que dans l'agenda, voilà, on voulait faire une chose, la faire du mieux possible, donc cet agenda musical qui centralise toutes les informations de concerts à Montpellier de façon exhaustive, donc voilà, tout simplement en fait on passait dans les troquets et on demandait tout simplement au barman, bon alors, qu'est-ce qu'il y a ce soir? Et à force de faire ça, on s'échangeait les infos entre nous, entre Montpellierains. Et finalement, on s'est dit, c'est con, pourquoi on ne centralise pas toutes les données? On met ça de façon claire sur un magazine pour que tout le monde soit au courant. Le but dans Mama Sound, avant tout, c'est de créer ce vivre ensemble et d'avoir le plus d'informations possible, que tout le monde ait accès à cette information. Et encore une fois, il n'y a pas de favoritisme. On va mettre toutes les personnes qu'il y a, c'est-à-dire qu'il y a certains lieux qui n'ont pas forcément besoin de nous parce qu'ils bombardent en affiches, je pense à Victoire 2, je pense au Jam, tu vois, des endroits, le Rockstore, comme ça. Et nous, on les met, ces personnes-là, mais on les met aussi à côté des petits bars locaux, comme par exemple les qui ont moins les moyens de faire cette com-là. Donc je pense notamment au Trinque Fougasse, au Macadam, tu vois, au Little Red, à l'Astrée. Tu vois, il y a plein de petits lieux comme ça qui se bougent pour faire vivre Montpellier. Et puis nous, on a envie de leur donner la même visibilité que tout le monde.
Puis ça fait un bon complément parce que c'est vrai que et Leitmotiv et le Taffer se sont orientés vers un truc un petit peu un truc à deux têtes, à savoir un côté programmation plutôt sélective et puis un côté écrit, quoi, hein, article, chronique, interview, etc. etc.
Exactement, il y a des articles subjectifs. Nous, on fait pas de favoritisme. Voilà, on fait de l'agenda, on essaie de le faire du mieux possible. Et comme tu dis, ces magazines-là, ils viennent un peu compléter parce que voilà, il y en a qui vont faire des sélections. Nous, notre sélection, elle est exhaustive, on fait tout. Il n'y a pas de sélection, il y a que des coups de cœur.
Alors j'imagine que du coup la difficulté c'est d'être en contact quasi permanent avec les gens qui tiennent ces lieux, parce que des fois eux-mêmes la programmation, ils arrivent à peut-être des fois la caler 2-3 mois à l'avance, comme c'est le cas pour des cafés-concerts qui tournent déjà plutôt bien, que ce soit le Pen Down, le Black Sheep ou etc. Mais il y a des lieux plus nouveaux sur l'activité qui des fois peut-être ont une programmation qui se fait aller à J-7 ou comment ça se passe du coup, est-ce que c'est quotidien les rapports que vous avez
On leur met la pression carrément. On arrive dans les troquets, on dit alors, allez où ta prog là? Qu'est-ce que tu fous, bordel? Non, on essaie de leur mettre la pression, bien sûr. Il faut que tous les Montpelliérains soient au courant. Et puis, c'est trop con de faire des concerts et de mobiliser son propre réseau. Voilà, le réseau aujourd'hui s'agrandit avec Mama Sound. Il y a plein de Mama Sounders qui attendent ces infos-là. Donc, c'est à nous aussi d'être réactifs. Donc, on a le site internet, bien sûr. Là, comme tu dis, on est plus réactifs sur la programmation des fois qui se fait à la petite semaine. Et puis, des fois, on a les infos, merde, il y a ce concert qui est annulé ou celui-là, il est remplacé, etc. Donc, là, on essaie de donner ces infos-là du mieux possible. Mais ensuite, comme tu dis, Gilles, il y a le fait de publier à J+3, +4 dans Mama Sound. On essaie de publier le plus tard possible pour avoir le maximum d'informations. Encore une fois, l'exhaustivité et l'immersion, c'est très important pour nous parce qu'on les connaît tous ces lieux-là, on connaît tous les patrons de bar, on connaît tous les personnes qui vont faire la prog, enfin... Pas tous forcément, parce que pour certains lieux, on n'a pas besoin de galérer pour avoir la prog vu qu'ils ont un site internet déjà calé. On va les prendre assez facilement. Mais en tout cas, pour tous les lieux que tu viens de citer, voilà, on est en immersion avec eux et on les voit quasiment quotidiennement.
Alors, quels sont vos rôles à chacun d'entre vous au sein de Mama Sound?
Bon, écoute, je crois qu'on essaie de se partager le boulot un petit peu. Le principe, c'est une association déjà. Alors une association, c'est des bénévoles, c'est pas mal de monde qui essaie de se mobiliser pour faire vivre un projet. Notre projet, le projet de l'association, c'est l'association Rancard qui édite le Petit Mamasson, qui a d'autres projets d'ailleurs. On pourra en parler si vous voulez. Parmi ces projets, Mamasson, c'est vraiment un petit peu le fer de lance, quoi. C'est-à-dire, c'est ce petit outil pratique qu'on a voulu vraiment donner à l'usage de tous les Montpelliérains et tous les gens qui viennent aussi à Montpellier, parce que l'idée pour nous, c'était vraiment de faire vivre cette culture artistique et musicale montpelliéraine qui est extrêmement riche et souvent méconnue. Et on ne se rend pas compte de tous les jeunes, surtout, qui se lancent et qui sont prêts à essayer de faire un peu un petit peu de musique avec leurs propres moyens. Et moi, j'aime bien la phrase qu'on a mise dans le Mamasson de décembre, c'est une phrase de Sid Vicious de Sex Pistols qui dit tu plaques un accord, ça fait drunk et hop, tu joues de la musique. Absolument. Donc voilà, c'est un petit peu cette idée Mamasson de donner, comme disait Pascal, une visibilité à tout le monde. Et pour ça, il y a un partage des rôles. Ouais. Moi, je suis plutôt, je dirais, l'homme de l'ombre un peu dans ce boulot-là, parce qu'il y a pas mal de gestion, d'administration, de rapport aussi avec les institutions. Voilà, on essaie de développer pas mal de choses. Et Pascal est sur le terrain.
Sur le terrain. Alors tu disais l'association Rancard, à ne pas confondre avec l'association du même nom qui est basée à Lyon, parce qu'il y a aussi une association Rancard qui est basée à Lyon et qui remonte pour l'instant plus dans les moteurs de recherche. Vous avez plusieurs d'autres projets, peut-être qu'on peut en dire un mot et puis en même temps en profiter pour dire quels sont les besoins, parce qu'une association, tu le disais, c'est des bénévoles, etc. J'imagine que vous êtes peut-être aussi en recherche perpétuelle de petites mains ou de grosses mains d'ailleurs pour faire des petits trucs ou des gros trucs.
Ouais.
Alors,
on a besoin d'amour surtout.
Alors peut-être un point d'abord. besoin d'amour, oui, mais ça, ça n'a rien à voir avec l'association. Tout le monde a besoin d'amour.
Toi, tu nous aimes, Gilles.
Ah ouais, je vous adore. les divers projets que vous avez, mis à part le Mamasson, tu disais qu'il y en a, il y en a d'autres. C'est quoi ces projets?
Déjà, la Mamasson Party, tu sais, à Divergence FM qui nous avait fait une petite bande-annonce et tout pour annoncer ça. Donc, ce qu'on voulait faire avec ça, c'était avant tout renouer avec les fêtes de quartier, désenclaver certains quartiers, avoir ce côté. Il y avait 4 groupes locaux qui jouaient gratos, tu vois. On faisait la bière, la Mama Bière.
Ouais, l'idée
t'as capté le concept ou pas?
Ouais.
Mama bière.
Ouais, Mama bière. Ouais.
Tu vois, c'était cheap, quoi. On faisait à 2€ et puis on faisait, on essayait de recréer ce vivre ensemble dans un petit quartier. On aimerait réitérer l'opération. Ouais.
L'idée, c'est de redonner un peu de vie à ce qu'on appelle, nous, un petit peu les concerts populaires de quartier. Donc le principe, c'est de faire venir des groupes dans un quartier, des groupes locaux, quoi, qu'on les fait jouer un petit peu, de tourner dans les quartiers en travaillant avec les associations de quartier, avec les commerçants, voilà, essayer de mettre en place quelque chose qui est sympa, convivial, et je crois qu'il fait vivre un petit peu ce Montpellier populaire que nous on aime bien.
Ouais, parle bien mon pote.
Ah oui, il parle super bien. On sent l'administrateur derrière. Hein.
Yo.
Donc on retrouve évidemment toutes ces infos sur mamasound.fr, site sur lequel évidemment on peut aussi vous contacter pour dire je pourrais filer un coup de main, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça.
Là on a un peu boosté le site là la dernière semaine, parce que encore une fois le Mamasound c'est un moteur. Voilà, on a aussi cette idée là de faire vivre ce réseau de Montpellier, d'avoir le réseau des Mamasounders, d'avoir des gens qui ont dans la poche qui disent yo. Bientôt, on va taper yo sur le moteur de recherche de Google et on sera les premiers.
Ça, c'est
notre but, ça, tu vois. Non, je déconne. Non, mais à côté de ça, voilà, c'est un moteur. Il faut essayer de capitaliser ce réseau-là, de vivre ensemble. Donc, encore une fois, il y a ce site internet, par exemple, dont tu parlais, là. On a rajouté une rubrique qui est la petite annonce. Donc, c'est-à-dire, musique, tu vois. Il y en a qui disent, moi, je donne des cours de guitare. Tiens, je cherche
un ampli, une trompette.
Les groupes de punk qui disent je vends un métronome qui a jamais servi, tu vois.
Elle est bonne. C'est parfait. D'ailleurs, on va pas se quitter avec des punks, mais avec une reprise de Elvis Presley, That's Alright Mama. C'est Arthur Crudup qui nous chante ça au ukulélé. On rappelle, c'est mamasound.fr. Et puis, on le trouve partout à Montpellier, le petit programme, l'agenda concert chaque mois.
Exactement.
Exact.
Donc là, en préparation, au mois de janvier.
Et évidemment, évidemment. Skoulpa et Steph, merci beaucoup.
Merci.
Et on vous souhaite une bonne continuation pour tous vos projets. Salut.
Yo. À bientôt.
Carénage me trouvait en médaille. Médaille amène un bala, béa, mandela, béa, béni, bamouin. À la nage m'arrivait, carénage. Carénage me trouvait en médaille. Médaille amène un bala, béa, mandela, béa, béni, bamouin. Antigano, tête et cano. Antigano, tête et cano. Antigano, tête et cano. Antigano, capati à la nage. Antigano, tête et cano. Antigano, tête et cano. Antigano, tête et cano. Antigano, capati à la nage. À la nage m'arrivait carénage, carénage m'a trouvé en médaille. Médaille amène un bala, béa, mandela, béa, béni, bamouin. À la nage m'arrivait carénage, carénage m'a trouvé en médaille. Médaille amène un bala, béa, mandela, béa, béni, bamouin. Delmao, 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 c'est bien qu'on l'a pas de béco ou à faire. Delmao, 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 Delmao.
Oi, 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 oi,
Et on va refermer cette auberge espagnole avec Mastoc. Je le disais tout à l'heure, ils sont en concert performance. Ce sera demain, mercredi 19 décembre. Ça sera à la Fac de Lettres, à la salle Jean Moulin, la maison des étudiants, à partir de 17h30. Et pour en parler avec nous, bien on a G, le chanteur-guitariste, Bebeto, le bassiste, Hélène Olivier, qui est plasticienne, scénographe, et Nadjet, qui est échassière. Il nous manque Malek Adijat, c'est bien ça ?
Malek, c'est le guitariste du groupe Mastoc.
Voilà.
Qu'on se présente. Bon, bonjour à tous.
Bienvenue dans les studios de Divergence. Mastoc, un groupe qui s'est formé il y a combien de temps ?
Bon, disons, c'est un projet très long que je tiens depuis 91. Mais la formule actuelle, avec cet environnement sur 7, dure depuis 7 ans. Mm-hmm. Et bon, dans vraiment l'équipe actuelle, il y en a qui y sont depuis que 3 ans.
D'accord, d'accord. Et donc, ça résonne un petit peu, on a des résonances étranges, ça vient peut-être des ressorts qui sont sur les pieds de micro, enfin peu importe. C'est des musiciens d'horizons assez différents, avec des influences très, très larges, que ça peut aller de sonorités maghrébines jusqu'à des sonorités hendrixiennes, même si on connaît le goût des guitaristes comme Jimi Hendrix dans les 70 pour aller à Essaouira, par exemple, faire la fête, ou etc. C'est quoi l'identité musicale finalement de Mastoc?
Déjà, pour continuer dans l'idée que tu as de nous, c'est que nous aimons beaucoup jouer en live et nous donnons beaucoup d'importance à l'improvisation. Mm-hmm. Donc, c'est pourquoi Malek c'est celui qui emmène une lumière un peu dans le groupe par rapport à son côté éclectique et son sens de l'improvisation. Mm-hmm. Et ça me donne du goût de d'emmener ma voix dessus, parce que bon, les instruments mélodiques que nous utilisons, la guitare et la voix donnent l'importance au groupe. Nous n'avons pas le sens rythmique qu'ont nos autres compatriotes.
Tout à fait. Donc vous serez en concert demain, lors d'un concert un petit peu spécial, puisque si Hélène est avec nous, c'est justement pour parler de tout ce côté. Alors il y a des costumes assez spéciaux qui réagissent à la lumière. Finalement, qu'est-ce qu'on va voir avec aussi les échassiers, les échassières?
En fait, on va voir une sorte d'expo vivante, en fait. Le support, c'est les musiciens. Et c'est comme une expo qui jouerait la bonne musique, la très bonne musique. On l'a appelé Dwim Souk. Ça peut paraître un peu bizarre, le titre. Ce serait comme dire en créole que ça n'existe pas, en fait. Hein. Ce serait comme dire un souk de rêve. Mmh. Qu'est-ce qu'on aimerait trouver chacun, nous, dans un souk de rêve? De la bonne musique, des gens avec... Et un visuel qui, en fait, plutôt comme des... tableau costume, c'est-à-dire qu'ils ont été réalisés pour chacun des musiciens avec leur personnalité, avec tout ce qui va avec, et la personnalité du groupe, parce que c'est Caraïbes. Et comme DJ, je pense que c'est aussi, il y a une grande place à l'improvisation, donc on a aussi la grande chance d'avoir Najet et Maya qui seront sur Échasse.
Il fallait pas en parler.
Mais c'était une surprise, on n'en parle pas.
Personne
n'a entendu. Mais donc deux comédiennes et chassières qui vont être là avec nous. Et on va essayer de faire quelque chose qui soit très, très, très dansant.
Dansant, et puis
et
alors
festif.
Du coup festif, et puis visuel, si j'ai bien compris, c'est avec des peintures qui réagissent à la lumière noire que vous avez confectionnées
ou colorier
les costumes.
Oui, il faut venir voir directement, c'est un peu difficile à expliquer,
en radio, hein,
mais on va dire que moi, pendant longtemps, j'ai fait des tableaux et j'avais envie de faire d'autres choses, c'est comme exposer sur des gens avec la musique, c'est ça qui m'intéresse, une expo vivante. Et j'aimerais bien ajouter aussi que tout ça nous a été rendu possible parce que derrière nous, il y a l'association de musicothérapie de Montpellier qui font beaucoup de bonnes choses, qui sont des gens extraordinaires. Et donc, voilà, c'est pas rien d'être invité par eux et de pouvoir travailler avec eux.
Voilà, c'est en partenariat justement avec l'Association des étudiants en musicothérapie. Alors, un premier set se déroulera de 17h30 à 19h, puis le concert reprendra de 21h à minuit. Donc, vous n'avez aucune excuse pour rater ce concert. Et puis, comme l'heure tourne super vite et qu'il faut déjà se quitter, et que vous avez eu la bonne idée de venir avec vos instruments, un dernier petit mot avant d'écouter la musique.
On a aussi dans le souk de rêve la chance d'avoir DJ Cisco qui viendra aussi passer de la musique, un grand collectionneur de morceaux d'anthologie quand même de reggae. Donc, voilà, on avait envie de le citer.
et qui maniera la pause entre 19 et 21h peut-être.
Exact.
Ça coule de source.
Ouais, donc, vous... il a été connu sur une émission.
Il a fait partie de la maison un petit peu.
La maison, ouais.
C'est
sur
François
Zionland.
Villa, en fait.
Zion... Ah, mais oui, François Zion Villa, Land. L'animateur de Zionland. Eh bien, bonjour François, tu nous écoutes. Une grosse bise. Donc, on vous laisse jouer ce morceau pour refermer cette oreille hardie. J'en profite pour remercier Bruno Bertrand qui a réalisé cette émission ainsi que Gérard Viol. La parole et la musique sont à vous.
Bon Dieu merci, depuis on est la vie. Passe, ni joukani, et d'autres jours, pas cani. Dis bon Dieu merci, depuis on est la vie. Passe, pas pour envie, ça en d'autres ni. Ça y ni, ni, ça ou ni. C'est comme ça la vie, et bien tant pis. Pendant ni qui ni ni d'autres qui pani. Pendant ni qui ni ni d'autres qui pani. Pendant ni qui ni ni d'autres qui pani. Ni d'autres qui pani. Ni d'autres qui pani. Manu des bons amis, pensez à construire. Pas chercher des trucs, mais toujours dis bon Dieu merci, même si je dis. C'est peu que autres ni. On est pour bénir, on est pour créer, on est pour. On est pour bénir, on n'est pas né pour trahir. Pendant ni qui ni d'autres qui pani, pendant ni qui ni d'autres qui pani, pendant ni qui ni d'autres qui pani, ni d'autres qui pani, ni d'autres qui pani, ni d'autres qui pani, pendant ni qui ni d'autres qui pani, pendant ni qui ni d'autres qui pani, pendant ni qui ni d'autres qui pani, ni d'autres qui pani. Ni d'autres qui pani, si je dis, ou pédi. Mani tout ça m'envlaise avec tout ça qui pani, pas qu'à passer au truc, bip! Ou vin à pani, ou zakamodi, ok, son jeudi. Mon Dieu merci, même si je dis, c'est pégé ou ni passe, passe. Pendant ni qui ni ni d'autres qui pani, ni d'autres qui pani, ni d'autres qui pani, ni d'autres qui pani. Pendant ni qui ni ni d'autres qui pani, pendant ni qui ni ni d'autres qui pani, pendant ni qui ni ni d'autres qui pani, ni d'autres qui pani, ni d'autres qui pani.